Alors, bonjour ou bonsoir à tous et chacun pour cette nouvelle rencontre sur édification.bible. Avant de commencer, nous aimerions faire quelques petites annonces. On m'a demandé de faire cela. Alors, voilà, il s'agit de réunions spéciales que nous faisons et c'est important de ne pas déplacer ces réunions que vous avez localement ou activités locales pour ces réunions-ci que nous faisons. Donc, c'est important de donner la priorité aux réunions locales s'il y en a autour de vous. De toute façon, les messages sont rediffusés régulièrement, donc vous pouvez revenir à un autre moment pour entendre les messages d'édification. Ensuite aussi, nous aimerions vous encourager à partager le lien édification.bible à d'autres croyants que vous pourriez connaître et qui pourraient apprécier aussi ces moments où nous pouvons être sous l'écoute de la parole de Dieu et nous édifier tous et chacun sur notre très sainte foi. Alors, on vous encourage à avoir votre Bible en main. Ceux qui ont les smartphones, eh bien, ils vont avoir le smartphone en main, mais la Bible aussi à côté, de préférence si vous en avez l'occasion, pour pouvoir chercher dans les Écritures les passages que nous lisons. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un regard sur notre activité présente. C'est, si le Seigneur le permet, une petite série de messages sur l'édification du corps de Christ, Dieu et nous. Donc, notre responsabilité et ce que Dieu fait. Dans ce message, j'aimerais prendre le temps d'examiner notre côté concernant l'édification du corps de Christ. Donc, on va regarder ensemble, faire une première lecture dans le livre d'Esdras au chapitre 4. Nous allons ouvrir la parole dans Esdras au chapitre 4. 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, chapitre 4. Nous allons lire quelques passage du livre d'Esdras. C'est écrit au verset 1. « Et les ennemis de Juda et de Benjamin entendirent que les fils de la transportation bâtissaient le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs des pères et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car nous recherchons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis les jours des tsars Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Et Zorobabel et Joshua et le reste des chefs des pères d'Israël leur dirent, « Vous n'avez pas affaire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous seuls, nous bâtirons à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a commandé le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors le peuple du pays rendit lâche les mains du peuple de Juda. Et ils leur firent peur de bâtir, et ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer leur plan, durant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et au jour d'Artaxerces, Bishlam et un paquet d'autres personnes ont écrit une lettre aussi au roi d'Artaxerces. On va sauter les détails de cette lettre, mais le résultat de cette lettre est le suivant. Nous allons lire au verset 21. « Ainsi, donnez ordre de faire cesser ces hommes et que cette ville ne soit pas bâtie jusqu'à ce que l'ordre en soit donné de par moi. Gardez-vous de manquer à faire cela. Pourquoi le dommage augmenterait-il au préjudice des rois? Alors, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerces eut été lue devant Rehum et Shimshaï, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et les firent cesser par force et par puissance. Alors le travail de la maison de Dieu, qui est à Jérusalem, cessa. Et il fut arrêté jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. » Israël avait reçu cette permission, voire même cet ordre de la part de Dieu de retourner dans la terre promise pour une tâche très spécifique. Et c'est ce que nous lisons à la fin du livre de 2 Chroniques, dernier verset, et aussi au début du livre d'Esdras, que le roi Cyrus avait permis de retourner dans le pays afin de bâtir une maison à l'Éternel. Et il le mentionne comme si c'était un ordre que Dieu lui-même lui avait demandé que son peuple retourne pour bâtir la maison. Alors, le but, l'objectif premier était de bâtir la maison de l'Éternel. Et c'est pour cela que le peuple était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont placé les fondements et puis, pas longtemps après avoir établi les fondements, des ennemis sont venus pour faire du problème et des troubles. Alors, les ennemis sont venus, premièrement, dans une stratégie de vouloir s'impliquer eux aussi dans le travail qui était fait pour Dieu, en disant qu'eux aussi adoraient le même Dieu, etc. Eh bien, ils ont reçu une réponse claire et nette de la part des chefs qui étaient là à cette époque. Ils ont dit « Non, vous n'avez aucune part avec nous dans cette œuvre ». Alors, il y a une leçon intéressante ici qu'on peut tirer. Ce n'est pas le but principal de mon message, mais quand même, il n'y a personne d'autre que le peuple de Dieu qui peut bâtir la maison de Dieu. Quand on est chez soi et on veut faire des travaux, admettons, sur notre maison ou à l'extérieur de la maison, différents travaux qu'on aimerait avoir, on peut appeler une personne qui sait comment faire ces travaux-là, payer cette personne et la personne va faire les travaux. Ça, ça se fait. Mais pour bâtir la maison de Dieu, on ne peut pas demander à d'autres personnes de la bâtir. C'est au peuple de Dieu seul de bâtir la maison de Dieu. Et c'est lui seul qui est équipé aussi de la part de Dieu pour bâtir sa maison. Donc, c'est un encouragement pour nous et un rappel que ce travail sur la maison de Dieu ne peut pas être fait avec des personnes qui se disent croyantes et qui ne le sont pas, ou même avec ce monde qui est dans les faits en inimitié contre Dieu. Ainsi, les ennemis sont venus, ont voulu faire ce travail avec le peuple. Le peuple a répondu clairement que non, ils allaient eux-mêmes faire le travail. Alors, l'étape 2 est entrée en jeu. Ils ont pris toutes les tactiques possibles pour les décourager dans le service qu'ils faisaient. Un refus clair a été dit et ensuite, 3 moyens d'intimidation ont été employés. Le premier de ces moyens-là a été de rendre les mains du peuple lâches. Par des paroles, par des manœuvres qu'ils devaient faire, toutes sortes de moyens utilisés, quels qu'ils soient, l'objectif était simple, rendre leurs mains lâches, ralentir le travail, rendre le travail très lent dans les faits. Le deuxième moyen qui a été employé, c'est leur faire peur. Encore une fois, probablement par des paroles, des si, toutes sortes de choses qui ont pu être dites et faites pour les effrayer, pour ne pas bâtir la maison de l'Éternel. Et le troisième moyen employé, bien sûr, c'est qu'ils ont soudoyé des conseillers pour faire échouer leur plan. Maintenant, frères et sœurs, nous aussi aujourd'hui, nous travaillons à une tâche très importante parce que le Seigneur travaille aussi à cette même tâche. C'est l'édification du corps de Christ. Ou pour prendre les termes de Esdras, bâtir la maison de Dieu. C'est l'expression « nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu » qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3. Est-ce que nos mains sont rendues lâches aussi dans ces travaux de construction, de bâtir la maison de Dieu? Il y a plusieurs choses qui peuvent rendre nos mains lâches dans ce monde. Par exemple, trop de travail. Est-ce qu'on est débordé et chargé de travail? Peut-être qu'on peut même penser que toute cette occupation et ce travail que l'on a est la volonté de Dieu pour nous. Mais vous savez, quand le Seigneur va nous donner ses récompenses et il va réviser ce qu'on a fait dans nos vies, il ne va pas nous dire « Un bon et fidèle travailleur, tu as gagné beaucoup d'argent, entre dans les richesses de ton maître. » Il ne va pas du tout dire ça, le Seigneur, mais il va dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Le Seigneur va récompenser la fidélité dans son œuvre, dans ce que lui fait, dans sa vigne. On n'aura jamais de récompense parce qu'on aura travaillé ou été surchargé de travail. Certains enfants de Dieu peuvent croire parfait que c'est la volonté, encore une fois, de Dieu qu'ils aient tant d'occupations, tant de charges, tant de responsabilités. Mais cela, dans les faits, produit une chose. À moins que nous en ayons vraiment les capacités de la part de Dieu de faire autant. Mais une chose se produit très souvent, c'est que ce travail nous occupe tellement que cela rend nos mains lâches à l'œuvre de Dieu. Même que physiquement, on peut entrer à la maison à être tellement épuisé ou tellement préoccupé par ces choses que nous devons faire qu'on n'a plus d'énergie pour le travail de la maison de Dieu. Une autre chose, les obligations et les responsabilités personnelles. Peut-être que cela aussi occupe tellement nos pensées et nos cœurs que cela nous fait dire « mais je ne peux pas, je n'ai pas le temps de faire ces choses-là pour le Seigneur ». Autre chose qui peut être aussi, c'est le mal. On peut lire un passage, entre autres, dans Matthieu 24, au verset 12. On pourra garder notre Bible ouverte à Matthieu 24 parce que nous allons y revenir. Dans Matthieu 24, 12, nous lisons ceci. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Est-ce que l'iniquité que nous voyons autour de nous, tout le mal qui se fait, les injustices, est-ce que cela rend nos mains lâches? On se dit, à quoi ça sert de faire tous ces efforts, de mettre autant d'énergie avec tout ce qui se fait autour de nous? Une autre chose qui peut rendre nos mains lâches, ce sont les soucis, les tracas au quotidien. On est consumé par ceux-ci, puis au lieu d'avoir un cœur joyeux et libre dans le Seigneur, étant chargé, nos mains ne sont pas capables de faire un service utile pour lui. Autre chose aussi, les attaques personnelles, qui sont faites sur notre personne peut-être. Des choses qui ont été dites à notre sujet, qui nous ont déprimés, qui nous ont découragés, qui ont fait que nos mains sont rendues lâches maintenant. On se dit, j'ai eu assez de problèmes, on s'est assez moqué de moi, moi c'est terminé maintenant, aux autres de faire le travail. Moi j'ai donné ma part, j'ai fait ce que j'avais à faire, que les autres le fassent maintenant. Nos mains sont rendues lâches par cela. Les aises, les conforts, bref, l'esprit laodicéen, est-ce que ça se peut que toutes ces choses-là fassent en sorte qu'on est bien chez soi, on est bien dans nos choses, on est bien dans nos activités, dans nos voyages, dans nos divertissements, peu importe, on apprécie les choses de cette vie et puis on n'a plus d'énergie ou de désir pour bâtir la maison de Dieu. Bref, toutes sortes de choses qui peuvent entrer dans nos cœurs et qui peuvent prendre la place du Seigneur. Les mains lâches, est-ce qu'on peut avoir aussi peur? La peur de bâtir. Il y a différentes choses qui peuvent nous donner des peurs pour bâtir. Est-ce qu'on a peur de partager la vérité? La vérité qui se partage tant dans l'Évangile que dans le service du Seigneur. C'est une chose assez extraordinaire de voir que les fausses doctrines se répandent à vue d'œil autour de nous. On a par exemple Matthieu 24 au verset 11, le verset, il dit « Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs ». On est dans ces temps-là aussi, où il y a plusieurs faux prophètes qui viennent. Et puis, les fausses doctrines se répandent partout. Aujourd'hui, Internet, autant de bonnes choses qui peuvent être faites que de très mauvaises et entre autres, des fausses doctrines, des mauvais enseignements se répandent. Est-ce que nous qui connaissons la vérité, on a peur de communiquer cette vérité? Peut-être qu'on se dit qu'on a peur d'offenser d'autres personnes autour de nous. Peut-être qu'on se dit qu'en parlant de l'Évangile, ça va choquer les gens ou en disant la vérité concernant les enseignements de la parole de Dieu, ça va offenser. Évidemment, il y a une façon de parler et une façon de dire les choses avec douceur, mais aussi avec conviction, en sachant que c'est l'enseignement des Écritures. Il y a une façon de dire et de faire. Mais est-ce qu'on a peur de communiquer la vérité autour de nous, de parler du nom du Seigneur Jésus à salut aussi? L'ennemi place devant nos yeux toutes sortes de craintes. Il se dit, oui, mais si tu fais ça, il va arriver ceci. Oui, mais si tu dis ça, il pourrait arriver cela. Oh, mais ça pourrait faire du trouble aussi, parler de toutes ces choses-là, du salut aux incrédules et puis de la vérité aux autres enfants de Dieu. Tu sais, le Seigneur nous a dit de vivre en paix autant que cela est de notre capacité. Alors, autant se taire puis rien dire, comme ça on ne fera pas de trouble. On va vivre en paix. Ça, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Ça, c'est les pensées des mauvais conseillers dans les faits. Et c'est le troisième point qu'on peut voir, qu'il y a des mauvais conseillers. On pourrait aussi en arriver... oui, est-ce qu'on met foi à nos craintes? Est-ce que ces peurs qu'on a, on y ajoute foi? C'est une grande question. Et le problème, c'est que souvent, on croit ces craintes et ces peurs-là que l'ennemi de Dieu vient chuchoter à nos oreilles. Et cela nous fait peur et cela nous empêche de bien servir le Seigneur. Des conseillers soudoyés, j'ai mentionné. Eh bien, il y a des voix qui peuvent venir de l'extérieur. Évidemment, on a les philosophies, les pensées, les façons de faire de ce monde. Tout cela peut venir être contrecarrer des exercices ou des désirs de servir Dieu. Mais il y a aussi des voix à l'intérieur qui peuvent venir. On dit qu'il y a quelques-uns qui étaient soudoyés. Soudoyés? Soudoyer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est avec nous, qui est payé par quelqu'un à l'extérieur dans le but de faire contrecarrer les plans. Être soudoyé. Comment est-ce que ça peut arriver que quelqu'un à l'intérieur soit soudoyé quand on parle des enfants de Dieu? Eh bien, est-ce que vous avez déjà entendu des paroles comme celle-ci? Ça ne va pas fonctionner. Ça ne sert à rien de faire ça. Il n'y a personne qui va venir. On ne peut pas faire ça. On est au 21e siècle maintenant. Ça ne se fait plus, ces choses-là. Des gens qui ont tout le temps des commentaires négatifs sur tout effort ou toute tentative de service pour le Seigneur, que ce soit dans l'Évangile ou que ce soit même pour l'édification et l'encouragement des croyants. Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a plein d'incrédules qui viennent? Ça va être le désordre dans nos réunions. Est-ce qu'on a déjà entendu ça? Comment on peut avoir un cœur soudoyé? Eh bien, j'aimerais suggérer ceci. Si nos cœurs ne sont non plus seulement occupés des choses de ce monde, ce qui rend premièrement nos mains lâches, mais qui sont complètement remplis de la façon de penser et de vivre du siècle présent, cela va corrompre nos cœurs. Cela va les soudoyer, pour ainsi dire, en faveur de l'ennemi. Et on va se mettre à considérer davantage nos propres intérêts personnels, à mettre nos efforts et nos énergies et nos biens, peu importe, sur des choses qui nous intéressent et nous rapportent un profit personnel, plutôt que de faire quoi que ce soit pour le bien de la maison de Dieu. Est-ce que j'ai déjà prêté oreille à de telles paroles? Est-ce que j'ai déjà été découragé par des choses qu'on m'a dit concernant un service que j'avais à cœur de faire ou que je faisais avec d'autres personnes et que cela m'a fait m'arrêter? Est-ce que j'ai prêté oreille à des personnes qui étaient des mauvais conseillers? Est-ce que je suis moi-même un mauvais conseiller? Est-ce que parfois de ma propre bouche sortent des paroles qui sont loin d'être un encouragement pour ceux qui veulent faire quelque chose, mais « Ah, je ne sais pas, je n'ai pas à cœur, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain que c'est la bonne méthode. » Plein de choses qui peuvent être dites. Est-ce que je fais cela? Ou est-ce que j'ai déjà été influencé par quelqu'un qui a fait cela? Il y a plusieurs choses que l'ennemi peut utiliser pour nous faire du tort, pour nous décourager dans le service de la maison de Dieu. Mais malgré tout cela, lorsqu'on étudie le texte dans Esdras, on voit que le peuple continuait à faire son travail. Le travail n'a jamais arrêté. Les mains étaient lâches, ça n'avançait pas aussi bien qu'il fallait, il y avait des obstacles continuellement à faire le travail, il y avait des peurs et des craintes. Mais dans la grâce de Dieu, le travail a toujours continué. Maintenant, une grande question. Ce n'est pas une grande question, je devrais plutôt dire ceci, c'est que les ennemis sont arrivés à leur fin à un certain point malgré tout. Si toute leur tactique pour décourager et nuire n'a pas fonctionné, à un certain point, ils ont pu écrire une lettre à un roi en particulier qui a régné seulement pendant quelques mois, qui était aussi corrompu que... on n'ira pas là-dessus, mais bon, bref. Il y avait ses intérêts et lorsqu'il a su que ces choses-là arrivaient, il a fait mettre un terme à la construction de la maison de l'Éternel. Et lorsque les ennemis ont eu cette lettre de réponse, ils sont venus et par force et par puissance, ils ont imposé l'arrêt des travaux. Leurs ennemis ont finalement eu ce qu'ils voulaient, l'arrêt complet des travaux. Est-ce que moi, comme enfant de Dieu, je me suis arrêté dans ma vie comme croyant? Dans l'édification du corps de Christ, tant pour l'Évangile que pour le bien du peuple de Dieu. Est-ce que je suis à l'arrêt complet? Est-ce que l'ennemi a réussi, par un moyen quelconque, à me mettre à l'arrêt? Le travail de Dieu, c'est ça. Le travail de la maison de Dieu, c'est ça complètement. J'aimerais faire un petit parallèle avec notre situation actuelle. Avec ce virus où plusieurs enfants de Dieu sont maintenant obligés de demeurer à la maison. Et je pense que c'est une première dans toute l'histoire du christianisme qu'à travers le monde, une grande majorité, une grande quantité de chrétiens sont touchés de sorte qu'ils ne peuvent plus se réunir le premier jour de la semaine pour se souvenir du Seigneur Jésus, sortir dans les rues pour prêcher l'Évangile et faire toutes sortes de bonnes œuvres, tant pour le corps de Christ que pour tous les hommes en général. C'est une première. Nos œuvres, nos services, notre travail habituel est suspendu ou très ralenti pour une première fois, je crois, dans toute l'histoire du christianisme. Eh bien, c'est une belle occasion pour nous de prendre le temps de réfléchir à tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, toute notre activité présente. En jetant un regard sur tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, on peut premièrement, et on fait bien de le faire, regarder à tout ce qui a été fait positivement pour le service du Seigneur, pour son assemblée. Et c'est une chose d'être occupé des choses positives, parce que si on s'occupe seulement des choses négatives, ça décourage et ce n'est pas une bonne chose. Donc, de regarder au travail qui a été fait, tant dans l'Évangile jusqu'à aujourd'hui, tant dans le service pour les saints, tant dans tout ce qui promouvoit l'utilité commune pour les enfants de Dieu et pour l'édification du corps de Christ, par des âmes ajoutées, par des âmes qui sont édifiées jusqu'à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, de penser à cela et aussi peut-être de jeter un regard en arrière sur notre activité présente. Est-ce que mes mains ont été rendues lâches par certaines choses? Est-ce que j'ai des peurs jusqu'à aujourd'hui qui m'empêchent d'être efficace comme je le devrais dans le service du Seigneur? Et est-ce que j'ai prêté oreille ou est-ce que je suis une bouche qui dit des choses qui découragent les autres dans le service du Seigneur? On peut regarder en arrière et se poser la question ici, de quelle manière est-ce que j'ai pu travailler et édifier sur la maison de Dieu? On peut regarder en arrière et aussi se demander, est-ce que j'ai été affecté par les tactiques de l'ennemi dans le service de la maison de Dieu? Et puis finalement, je peux me poser la question, quelle sera ma réaction face aux circonstances actuelles? Vous savez, le peuple de Dieu, lorsqu'il s'était fait arrêter, eh bien, ils étaient tous retournés chacun chez eux. Puis pendant 2 ans, ils se sont occupés de leur terre, de leurs biens, de leur maison. Hein? Le prophète Agé a dû dire, « Vous êtes en train de lambrisser vos maisons alors que la maison de l'Éternel est en ruine. » C'est quoi ça? Et puis tout le confort et le bien que ce peuple pensait avoir, eh bien, ils ne l'ont jamais eu. Parce que Dieu a dit, « J'ai retenu la bénédiction, j'ai amené la sécheresse. » Pourquoi? Pour vous faire comprendre, justement, que ce n'est pas le temps d'être à vos aises. Il faut que ma maison soit bâtie. Eh bien, pour nous, quelle sera notre réaction dans nos circonstances présentes? Est-ce que ça sera une occasion où nous allons servir nos propres intérêts personnels comme le peuple, ou est-ce que ça sera pour nous une période de réflexion? De réflexion sur toute notre activité présente jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait de bon et de bien dans le service du Seigneur pour nous encourager à persévérer dans ces choses et aussi d'examiner tout le mal que l'ennemi a tenté de faire pour nous ralentir, rendre nos mains lâches, nous faire peur et nous faire toutes sortes de choses pour arrêter ces projets de construction. Et peut-être même me demander, est-ce que j'ai arrêté? Est-ce que j'ai arrêté? C'est une bonne chose, parce que le Seigneur vient et il travaille encore aujourd'hui à une grande œuvre. Il bâtit son assemblée, il nous prépare à sa venue prochaine aussi. Le Seigneur travaille, il travaille avec puissance et j'espère pouvoir, si le Seigneur le permet, faire une deuxième présentation sur tout le travail que le Seigneur fait aujourd'hui encore et toute l'énergie et la puissance qui est mise pour que ce travail avance, afin qu'on soit encouragé, mais aujourd'hui, réfléchir à ce travail que le Seigneur fait et à cette part que nous avons eue et que nous pourrions avoir dans le futur. La situation que nous vivons actuellement ne durera pas continuellement, mais sommes-nous prêts pour lorsque ça va continuer? C'est un peu, je ne connais pas grand-chose aux courses de voiture, mais je sais une chose dans les courses de voiture, c'est quand il y a un accident de voiture dans une course de voiture, il y a une voiture qui vient pour ralentir toutes les autres, afin de permettre de dégager l'accident pour reprendre la course. Eh bien, je verrais un peu la situation présente comme étant un ralentissement qui nous permet d'examiner notre position, de regarder notre état actuel, de comment est-ce qu'on a couru jusqu'à présent pour mieux se préparer afin de reprendre de plus belle la course lorsque ce sera le temps. Quelles sont nos ressources? Si on s'est posé des questions sur quels sont les empêchements, quelles sont les choses qui peuvent nous ralentir ou nuire à notre travail dans l'édification du corps de Christ, on peut regarder quelques ressources, très rapidement parce que le temps avance rapidement, mais quelques ressources pour répondre à ces nuisances de l'ennemi. Premièrement, est-ce qu'on a des mains lâches? On doit tous confesser, je pense, que nous avons cette pensée que nous ne faisons pas tout ce que nous savons que nous pourrions faire. Je crois qu'on est tous là. Mais ce qui est important, c'est de ne pas garder cette attitude dans nos cœurs comme si elle était normale. Parce que cela voudrait dire que vraiment, la tiédeur de Laodicée serait très bien implantée dans nos cœurs. Et on ne veut pas ça. Oh, et si elle est déjà dans nos cœurs? Que le Seigneur nous donne la grâce de regarder à lui pour la chasser. C'est seulement la puissance de sa grâce qui peut faire cela. Nos mains sont-elles lâches? J'aimerais donner seulement un verset pour chacun des points qu'on a vus, parce que plusieurs versets pourraient être lus pour notre encouragement. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Nous lisons « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Tout ce que nous faisons de nos mains, ce travail n'est pas vain dans le Seigneur. Il est utile. Il contribue à l'accroissement, à l'édification du corps de Christ, de la maison de Dieu. Que ce soit un travail simple dans l'Évangile et discret ou quelque chose de grand qui est fait, ce n'est pas vain ni inutile dans le Seigneur. Que ce soit des mots d'encouragement, de l'aide qui peut être donnée, quelque chose que ce soit que le Seigneur nous met sur le cœur, ce n'est pas vain dans le Seigneur, parce que c'est pour l'édification du temple de Dieu. On peut faire une comparaison avec Apocalypse 3, verset 8, où on a l'assemblée de Philadelphie. Ces croyants, nous lisons à leur sujet qu'ils avaient peu de force. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient peu de force? Parce qu'ils savaient qu'en eux, il n'y avait aucune force pour faire l'œuvre du Seigneur. Mais ils savaient que dans le Seigneur, il y avait toutes les forces pour faire son service et son œuvre. Et c'est un encouragement pour nous. Si on sent que nos mains sont faibles, que nos mains sont lâches, allons au Seigneur. Il nous donne la force. Lui renouvelle notre zèle. Lui nous encourage pour aller de l'avant. Et il nous rappelle que non seulement le travail n'est pas vain, mais qu'en plus, il a sa récompense avec lui et qu'il vient très bientôt. Est-ce qu'on a peur? Un verset peut-être très connu au sujet de la peur peut être celui de 2 Timothée chapitre 1, où on lit au verset 7 « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. » Un esprit de crainte, c'est ce qu'on trouve dans le monde. Un esprit de crainte, c'est ce que l'on a lorsqu'on écoute aux suggestions de l'ennemi qui veut nous décourager. Mais on a un esprit de puissance, un esprit d'amour, un esprit de conseil. C'est pas parce qu'on a un esprit de puissance qu'on va se mettre à aller dehors puis faire n'importe quoi. Ça serait un manque de sagesse. On a un esprit de conseil aussi. Mais on a un esprit de puissance qui nous conduit dans toutes les œuvres de Dieu. Un esprit de puissance qui nous donne la capacité de faire ces choses-là, de surmonter les craintes et les peurs qu'on peut avoir. C'est cet esprit qui est en nous. Encore une fois, les forces sont pas en nous. La capacité est pas en nous. Et si on regarde à nous, « Ah, frère, je suis encouragé par qu'est-ce que tu dis, mais je tremble comme une feuille! » C'est parce qu'on regarde à soi. Il faut aller au Seigneur Jésus pour avoir les forces. Il faut réaliser et saisir par la foi que c'est un esprit de puissance qui est en nous. Vous voyez, trop souvent, on ajoute foi à nos craintes. On ajoute foi à nos peurs. On ajoute foi à notre propre faiblesse. Alors qu'on devrait ajouter foi à la parole de Dieu. Croire Dieu sur parole et aller à lui. Et lui nous donne la force dont on a besoin. Il nous donne de chasser les craintes, parce que celui qui est consommé dans l'amour, il n'y a plus de crainte. Dans Apocalypse 3, 8, encore une fois, avec ceux de Philadelphie, nos frères et nos sœurs qui ont œuvré pour le Seigneur et qui sont dans le repos aujourd'hui, ces frères et ces sœurs-là, il y avait une autre chose qui les caractérisait d'une façon particulière. C'est « Tu n'as pas renié mon nom ». Ils n'avaient pas peur de rendre témoignage pour le nom du Seigneur Jésus. Ils n'avaient pas peur de la vérité pour en parler partout autour d'eux. S'il y avait des craintes ou quoi que ce soit, ils les remettaient au Seigneur et ils avançaient avec la force et la puissance que l'Esprit de Dieu donne. C'est un bel exemple encore pour nous encourager si nous avons des craintes. Et puis, troisièmement, on a parlé de ceux qui étaient des mauvais conseillers, de ceux qui avaient été soudoyés. On l'applique ainsi pour nous. dont le monde a rempli le cœur et puis qui cherchent leurs propres intérêts au lieu de chercher les intérêts du Seigneur. Alors, quel verset peut nous encourager dans la parole à ce niveau? On a un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, où c'est écrit qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Mes propres pensées, pas seulement les incrédules qui ont besoin d'entendre concernant leur péché, concernant le jugement qui vient et concernant le salut qu'il y a dans le Seigneur Jésus. Ça, c'est vrai. Il faut amener leur pensée captive au Christ, à l'obéissance du Christ. Mais pour nous aussi, il faut que nos pensées soient captives à l'obéissance du Christ. Et le Seigneur nous a laissés ici pour que nous puissions contribuer à l'édification de la maison de Dieu. C'est le travail qu'il fait et c'est le travail que nous devons aussi encore faire aujourd'hui. On a encore une fois un exemple dans l'Assemblée de Philadelphie en Apocalypse 3, 8, encore une fois, où le Seigneur dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Frères et sœurs, il y a une porte ouverte devant nous. C'est le Seigneur qui l'a ouverte, cette porte. Et je suis certain que les événements qui nous concernent même aujourd'hui, et si vous écoutez ce message en rediffusion dans le futur, on n'espère pas que ça arrive parce qu'on attend la venue du Seigneur, mais si ça arrive, toutes circonstances, le Seigneur les permet et la porte est toujours ouverte pour le service du Seigneur. Dans l'Évangile, pour ajouter des pierres vivantes à cet édifice vivant, et aussi dans la parole, pour fortifier, édifier, encourager, enseigner, instruire dans les Écritures le peuple de Dieu, pour que nous puissions toujours mieux le servir, mieux l'adorer, mieux vivre à la gloire du nom du Seigneur Jésus, car nous portons son nom ici-bas, dans ce monde qui le rejette encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des solutions, même des encouragements dans les Écritures contre les mauvais ouvriers. Nous sommes dans une pause présentement. Nous sommes ralentis dans nos activités habituelles. Mais que cette pause soit afin que nous puissions mieux avancer lorsque ce sera le temps. Pensons au grand travail que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Pensons au travail que Dieu fait avec puissance pour encore sauver et encore instruire son peuple. Et en pensant à ces choses-là, rappelons-nous que Dieu travaille et que nous devons être des vases utiles pour travailler aussi avec lui. Le Seigneur Jésus avait parlé de cette parabole, de ce maître qui, dans sa vigne, avait été même jusqu'à la 11e heure chercher des ouvriers pour qu'ils travaillent dans la vigne. Frères et sœurs, je pense que la 11e heure est passée, ça fait longtemps. Mais le Seigneur, il a encore besoin d'ouvriers dans la vigne. Il veut qu'on vienne, qu'on entre et qu'on travaille avec zèle, avec énergie, parce qu'il vient bientôt. Jésus a dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi, je travaille. » Oh, si le Seigneur travaille encore aujourd'hui, et il travaille encore, que nous puissions dire nous aussi, le Seigneur travaille jusqu'à maintenant, et moi aussi, je travaille. Que cette circonstance dans laquelle nous sommes puisse nous donner des cœurs, puisse nous donner de réfléchir sur tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui dans le service de Dieu. Et aussi puisse nous donner de réfléchir à tout ce qui pourra être fait dans le service de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Et de prendre le temps d'examiner les pièges de l'ennemi pour rendre nos mains lâches, nous faire peur et puis nous décourager avec des conseillers qui n'ont jamais des choses bonnes à dire pour encourager dans les choses de Dieu. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur cela, nous son peuple, afin que nous puissions remonter nos manches, pour ainsi dire, et puis aller de plus belle vers l'avant. On ne sait pas dans combien de temps le Seigneur va venir. L'attente du peuple de Dieu est une attente de moment en moment. Mais frères et sœurs, pour chaque jour que l'on peut appeler aujourd'hui, que nous puissions avoir des cœurs encouragés à aller à lui et à être disponibles dans son service. Oui, que le Seigneur nous donne de prendre le temps de réfléchir et puis d'être encouragé, de prendre le temps de nous ressourcer dans cette période où nos activités habituelles sont bouleversées, pour aller au pied du Seigneur Jésus, être ressourcé, regaillardi. Je crois que c'est un archaïsme québécois qui veut dire redonner de la vigueur à notre marche comme chrétien, comme enfant de Dieu, pour que nous puissions aller avec zèle, conviction, énergie de l'avant pour le service du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs. J'aimerais terminer avec quelques petites annonces qu'on m'a demandé de faire. Donc, premièrement, maintenir la communion locale. Si vous, dans les circonstances où on est présentement, c'est important de maintenir ces liens de communion fraternelle pour ne pas se refroidir, mais nous encourager l'un l'autre aux bonnes œuvres et au rassemblement de nous-mêmes lorsque nous pourrons le faire de nouveau. En attendant, on peut se rassembler virtuellement, c'est pas pareil, mais c'est mieux que rien. On rend grâce au Seigneur pour ces moyens que nous avons aujourd'hui. Donc, nous encourager les uns les autres, exhortons-nous dans la communion fraternelle et encourageons-nous à regarder au Seigneur Jésus qui vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt et qu'il puisse nous trouver dans une position où il sera heureux de nous trouver et où nous serons heureux aussi d'être trouvés, actifs à bâtir sa maison. Il faut que la maison soit terminée pour qu'il vienne nous chercher. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, ça. Donc, actifs à bâtir la maison. Une autre annonce, il y aura un message d'évangélisation qui sera fait vendredi, le 10 avril, c'est-à-dire demain, à 20h. Et ça sera présenté par notre frère Peter Boubenser sur la chaîne, sur le site web lechemin.ch. Donc, lechemin.ch, simplement allez là et le message sera aussi rediffusé sur le site édification.bible. Donc, il y aura un autre message aussi, samedi, le 11 avril à 20h, et ce sera une présentation par notre frère Jean-Marc Allauvon, et le sujet de son message sera « Marcher collectivement dans l'unité et dans la séparation du mal ». Donc, on a deux belles présentations, deux choses qui contribuent justement, comme on a dit, à l'édification du corps de Christ, un message d'évangile, et puis ensuite un message d'édification pour nous. Si vous êtes disponible, soyez présent. Encore une fois, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait apprécier entendre ces messages, partagez le site édification.bible. Vous pouvez vous enregistrer sur le site web. Il y a un bouton ici pour recevoir des notifications par email. Donc, faites-le. C'est pour notre encouragement et notre bien à tous. Et puis, prions pour ce message d'évangile, pour que le Seigneur l'utilise, pour que des âmes soient touchées et viennent à la connaissance du Seigneur Jésus. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt dans la grâce de Dieu. Nous attendons sa venue et qu'il vous encourage et nous encourage tous à regarder à lui, à persévérer et puis encore une fois à examiner qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour le service du Seigneur, pour l'édification des siens dans les jours qui viennent. Alors, c'est dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus que je vous dis à bientôt.